Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers qui sont arrivés, les étoiles dans les yeux, parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram, pour justement leur faire la surprise. Donc ils n'avaient pas vu en fait. C'est ça qui était assez incroyable, ils sont arrivés, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et ils étaient, bah, c'était l'effet waouh quand ils sont arrivés, donc ça c'est vraiment une belle récompense de tout le travail. Accomplis, ils ont été super élogieux sur ce qu'on avait fait, donc ça c'est une super récompense.
Marie Létienne avait une vie à 100 à l'heure, avec des déplacements d'affaires réguliers, des nuits passées à l'hôtel loin de sa famille. Alors lorsque le Covid s'est immiscé, cela lui a permis d'avoir un aperçu d'une vie plus sédentaire. Une fois les restrictions levées, Marie n'avait plus tellement envie de laisser sa famille et sa jolie maison aussi souvent. Je pense que nombreux sont ceux pour qui le Covid a permis de mettre pause sur un rythme de travail effréné et de révéler des aspirations nouvelles. C'est ainsi qu'est né un nouveau projet, qui n'est clairement pas plus reposant, mais pour lequel la motivation est à son comble. Marie et son mari Benjamin se lancent alors dans la création d'un gîte, à mi-chemin entre Avignon et Saint-Rémy-de-Provence, débute l'aventure du Mas des Écoliers. Une fois encore, l'idéal est de découvrir cette nouvelle histoire à travers le témoignage de Marie Létienne, du Mas des Écoliers. Bonne écoute à tous. Bonjour Marie et bienvenue sur le podcast Les Clés du Gîte.
Bonjour Laura et merci de m'avoir invitée à ton micro. Je te suis assidûment depuis le début des Clés du Gîte.
Oh super! Ma première fan.
Exactement.
Mais écoute, je suis ravie vraiment de pouvoir faire plus ample connaissance et que tu acceptes de partager ton expérience. Alors pour commencer, peux-tu te présenter s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Marie, j'ai 41 ans. Je suis née à Orléans, en région centre. Et j'ai des origines dans le sud, parce que j'avais une partie de ma famille qui vient d'Ardèche et du côté d'Avignon. Je suis mariée à Benjamin, on s'est rencontrés au lycée, donc il y a bien longtemps. Et on a 3 enfants de 11 ans, 8 ans et 3 ans. Donc j'ai fait mes études à Compiègne, en Picardie, des études d'ingénieur, donc rien à voir avec mon activité aujourd'hui. Et j'ai passé 18 ans dans l'industrie du dispositif médical, à différents postes à responsabilité. Et pour le travail, on a beaucoup déménagé. On habitait en région centre, à Paris, en Normandie, à Lyon. Voilà, beaucoup, beaucoup de déménagements. Et puis, depuis toujours, cette envie de vivre dans le sud, quoi, parce que j'ai passé toutes mes vacances étant petite dans le sud. Et c'était vraiment, pour moi, le Graal, quoi, de venir vivre dans le sud, en fait.
Voilà. Génial. Alors, est-ce que c'est le projet du gîte qui a fait ce dernier déménagement ou c'est suite à une expérience professionnelle que vous avez réussi à atteindre le sud?
Alors, c'était dans l'autre sens, effectivement. C'est, en fait, avec Benjamin, mon mari, on s'est suivis pour nos métiers respectifs tout au long de notre carrière. Et donc, le dernier changement, c'était pour lui. Il travaille pour une entreprise qui est basée à Avignon. Et le gîte s'est fait plutôt un peu par hasard, en fait. Ça a été une opportunité. Notre voisin vendait son mas, qui était mitoyen au nôtre. Et donc, on s'est dit, ouais, c'est l'occasion. C'était l'occasion rêvée de lancer ce projet que j'avais un petit peu en tête depuis longtemps, en fait.
Génial. Et le voisin l'exploitait déjà comme un hébergement touristique ou pas du tout ?
Pas du tout. En fait, le voisin, au départ, était maraîcher, donc vraiment rien à voir. Il avait commencé à rénover sa maison qui date du 19e siècle et qui était vraiment dans un état très, très, très vétuste. Les toilettes, c'était la cabane au fond du jardin. il avait abandonné sa maison 20 ans plus tôt parce qu'il avait rencontré l'amour et il était parti en laissant tout en plan. Donc, la maison n'avait pas été habitée depuis 20 ans, dans un état... très vétuste. Ouais.
D'accord. Alors, tu apprends qu'il cherche à vendre. Ça déclenche de suite l'envie de créer le projet, juste d'abord de le reprendre. Comment se sont agencées tes idées et le projet ?
Alors, comme je te disais, ça fait longtemps que j'ai un peu cette idée d'avoir un établissement d'accueil, mais sans forcément savoir exactement quelle forme ça prendrait. L'idée est venue au départ quand on s'est mariés en Ardèche. Et on était dans un lieu vraiment extraordinaire, c'était dans une ancienne usine de verre à soie, et avec des pièces voûtées en pierre, ça m'avait fait rêver, et la personne louait aussi des gîtes sur place. Et voilà, l'idée est un peu née de cette expérience-là, et il n'y avait pas eu l'occasion jusqu'ici, et là vraiment c'était l'occasion vu que le bien se présentait. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est que notre maison à nous, ça faisait que 6 mois qu'on l'avait achetée. Et donc, évidemment, il n'était pas question qu'on l'achète juste pour nous. La banque aurait dit non. Donc, il avait fallu imaginer un projet qui puisse être viable financièrement.
D'accord. Donc, vous avez réalisé un business plan pour pouvoir avoir un financement auprès de la banque.
Exactement. Donc, après, de par nos métiers respectifs, on a l'habitude de faire. Business plan, ce n'était pas trop une difficulté. Le point, je dirais, qu'il fallait vraiment travailler, c'était les devis, parce qu'il y avait vraiment des lourds travaux à réaliser, de toiture, l'assainissement, toute l'électricité. Il n'y avait quasiment pas d'eau dans la maison. Il n'y avait pas de salle de bain, pas de toilette. Voilà. Donc, c'était vraiment une quasi-ruine. Donc, on a vraiment fait appel à beaucoup d'artisans pour pouvoir faire les devis et monter le business plan auprès de la banque.
Et comment vous imaginiez, alors je dis, je parle au passé parce que tu nous diras après comment c'est aujourd'hui, mais comment à ce moment-là vous imaginiez aménager le mas ? Est-ce que c'était un projet de chambre d'hôte ou plutôt de gîte, plusieurs gîtes ? Quelle capacité ?
Alors c'est une bonne question. Alors déjà, la partie chambre d'hôte, je ne suis pas du matin, donc les petits déjeuners pour moi, ce n'était pas envisageable. Donc l'idée de gîte est venue plutôt assez rapidement. Et après, en termes d'aménagement, j'ai fait un petit benchmark de ce qui se fait dans la région pour essayer d'identifier peut-être ce qui manquait dans la région. Et donc, il y avait beaucoup de masses qui étaient louées pour 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes, mais il n'y avait pas grand-chose pour les capacités un peu plus grandes. Et donc, c'est un peu ça qui nous a animés dans l'aménagement de la maison. On s'est dit, voilà, il faut pouvoir proposer quelque chose qui puisse convenir à plusieurs familles, des groupes d'amis, il y a quelque chose à faire.
Et quelle est la capacité, du coup, que vous avez choisie ?
Là, on a 12 personnes. Du coup, on a 5 chambres. Il y a 4 chambres doubles et une chambre plutôt enfant avec 4 lits simples, dont 2 en mezzanine. Et on a voulu, du coup, qu'il y ait 5 salles de bain aussi, pour que ce soit vraiment confortable et que chacun ait son espace, même si on est sur une capacité importante, que chacun puisse avoir son petit coin à lui.
Donc, ça vous permet de garder votre habitation, d'être à côté, tout en ayant votre espace privé.
Exactement. Donc, nous, on est dans le mas mitoyen et c'est bien séparé. Il y a 2 jardins différents, il y a un mur entre les deux et il y a 2 piscines. Voilà, donc chacun sa piscine. On ne se mélange pas. Non, c'est vraiment l'idée, déjà pour que nous, on ait notre tranquillité aussi, hein, mais aussi pour que les gens qui viennent puissent vraiment avoir l'impression d'avoir la maison pour eux et qu'il n'y ait pas trop de promiscuité. Donc, c'est bien séparé.
Et comment vous avez construit le projet? Est-ce que ça implique que tu quittes un emploi, ton mari aussi, juste l'un de vous deux?
Alors ça, c'est effectivement une histoire du coup assez récente. Au départ, je n'avais pas du tout prévu de quitter mon travail. On avait prévu d'embaucher quelqu'un pour s'en occuper, que ce soit pour la gestion du quotidien, mais aussi pour la commercialisation. Et puis après, il y a eu un faisceau d'événements. Je pense que clairement, le Covid a eu un impact. Parce que dans mon travail actuel, en fait, je me déplaçais beaucoup à l'international, parce que j'avais un métier de marketing international. Et le Covid a mis un frein à tout ça, et j'ai découvert le plaisir de manger le matin avec mes enfants, de dormir tous les soirs dans le même lit. Et je n'avais pas la motivation pour repartir dans des déplacements internationaux constants. Donc il y a eu cette idée de se dire peut-être c'est le moment de changer de vie, et puis une petite crise de la quarantaine aussi au passage, voilà. et du coup, l'occasion aussi dans mon travail d'un plan de départ volontaire pour me dire, bah voilà, c'est l'occasion, il y a un peu un alignement des planètes, on y va, on se lance, avec une petite appréhension au départ, hein, parce que ça fait 18 ans que je fais le même métier, donc c'est pas forcément évident de se lancer dans le vide dans un métier qu'on connaît pas. Mais ma réflexion a été de me dire qu'est-ce qui m'empêche de faire ce métier dont j'ai envie, à part la peur. Et je me suis dit, bah, c'est pas une bonne raison. Voilà, donc on y va. Et donc je finis mon travail actuel dans 3 mois, voilà.
D'accord.
Pour me consacrer entièrement au gîte et à ma famille.
Ah, mais c'est génial. Est-ce que à la banque, vous leur avez présenté en ayant tous les deux vos emplois? Ou est-ce que tout était vraiment fondé sur les revenus qui permettraient du coup de rembourser les échéances d'emprunt?
Alors, à la banque, on leur a présenté qu'on travaillait tous les deux, parce qu'au moment où on a acheté le bien, c'était le cas. Mais après, le business plan fait que, les revenus devraient largement couvrir les remboursements. Après, la question va être, est-ce que je vais pouvoir me dégager un salaire suffisant? C'est la question qui reste. Mais en tout cas, par rapport à la banque, ça permettra de payer le bien.
Est-ce que tu conserves l'idée de pouvoir embaucher quelqu'un tout de même pour t'assister, ou alors tu te dis, bon, ben, je vais prendre ce rôle à temps plein pour commencer, puis on verra comment ça évolue?
Donc, pour l'instant, j'ai pris le rôle à temps plein. Je voulais vraiment comprendre le temps qui était nécessaire entre chaque location et le faire moi-même pour me rendre compte. Voilà. Et c'est du sport quand même. On court un petit peu, les samedis d'été, on court un petit peu entre les sorties à 11h et les arrivées à 17h, donc c'est un petit peu la course. Et donc là, du coup, à l'automne, j'ai pris quelqu'un pour m'aider pour le ménage. On fait ça à deux.
D'accord. Alors, entre le premier coup de pelle et l'ouverture, l'accueil de tes premiers locataires, il s'est passé combien de temps?
Alors, c'est ça qui a été vraiment, on va dire, l'exploit du projet, parce que le maçon est arrivé le 6 octobre 2020 et on a accueilli les premiers le 31 juillet 2021, donc il s'est passé même pas 10 mois.
Et, oh punaise, ouais, pour tout faire.
Ouais, quand on voit l'état initial du mas, c'est vraiment un exploit. Alors, c'est beaucoup grâce aux artisans qui ont fait vraiment un super travail, et on a beaucoup travaillé avec eux aussi, et donc je pense que c'est ça qui a aidé à la réussite du projet, c'est qu'on a participé avec eux. Et on n'était pas là juste pour donner les instructions, on était avec eux sur le chantier, et on a fait de la peinture, on a posé les plinthes, les moulures, poncé les poutres, voilà, on a beaucoup travaillé. Alors, on n'était pas seuls, il y a les parents qui sont venus beaucoup nous aider, donc je les en remercie au passage. C'était génial. Un peu une aventure de famille. Ouais.
Les enfants, ils ont pris comment la nouvelle?
Alors, au début, ils se sont dit, oulala, papa et maman, ils sont déjà pas beaucoup disponibles à cause des déplacements. Ils vont l'être encore moins. Donc, c'était, c'était un peu une appréhension qui s'est révélée exacte. Hein, pendant 10 mois, c'est vrai qu'on a été beaucoup, beaucoup pris par les travaux. Mais à chaque fois, on leur a expliqué qu'à terme, c'était pour que maman soit plus disponible et puisse être là après pour aller chercher à l'école le soir. Donc, ils ont été patients.
Ils ont soutenu quand même le projet et votre idée de, voilà, de vous lancer dans cette nouvelle activité.
Oui, oui, tout à fait. On en a beaucoup parlé, donc ils ont compris que c'était un investissement en temps sur le, voilà, sur le court terme, mais pour un bénéfice à long terme d'avoir, d'avoir maman plus à la maison par la suite. Donc, ils ont bien compris. Et je pense que c'est important parce que c'est un projet qui est vraiment un projet passion. Et il faut que l'ensemble de la famille soit en accord avec ça, parce que ça fait vraiment un projet de famille, quoi.
Je suis tout à fait d'accord. Pour construire l'aménagement, quoi, imaginez plutôt l'aménagement avec les 5 chambres, comment serait la cuisine, etc. Est-ce que tu as fait le choix d'être accompagnée par un architecte ou une architecte d'intérieur ou une décoratrice, ou vraiment vous avez imaginé ça tout seul avec Benjamin ?
Alors, pour la partie, on va dire, grosse œuvre, on a dû faire appel à une architecte, c'était nécessaire pour avoir un permis de construire. Mais après, pour tout ce qui est aménagement, décoration, moi, j'adore ça. Et donc, tout le temps des gros travaux, j'ai passé pas mal de temps sur mon ordinateur à faire des petites planches déco, à regarder des inspirations. J'avais tout anticipé. C'est aussi ça qui a permis de gagner du temps à la fin. C'est que j'avais vraiment beaucoup anticipé, je savais exactement ce que je voulais faire dans chaque chambre, donc chaque salle de bain, la déco, les peintures. Et du coup, j'avais commencé à chiner, à rénover les meubles en amont, parce que je savais exactement dans quelle pièce ils allaient aller. Et donc, pendant tout l'hiver, où les maçons travaillaient sur la toiture, sur déplacer des murs, faire tomber des murs porteurs, enfin, là, moi, j'ai travaillé sur la rénovation des meubles, du ponçage, de la peinture, du vernis. Je me suis éclatée aussi à fabriquer les luminaires. J'ai passé l'hiver soirée devant la télé à fabriquer tous les luminaires de la maison.
Waouh !
Ouais, ça m'a passionnée. C'est ça, super sympa. Et donc voilà, parce que j'avais tout en tête. Et donc du coup, quand on arrivait à la phase décoration, en fait, ça a été fluide parce qu'on ne s'est pas posé de questions. Je savais que le résultat final qu'on avait en tête, quoi.
Et pourquoi alors la thématique de l'école ?
Ah oui, alors c'est une bonne question. Donc il y a eu plusieurs éléments qui ont amené vers ce choix. Donc déjà, une partie du MAS donne sur un chemin qui s'appelle le chemin des écoles. Là, donc on est juste à côté de petite école du village. Et puis la deuxième raison, c'est que notre petit troisième rentrait à l'école au moment où on a acheté le MAS. Donc voilà, c'était... C'était dans l'esprit de l'école. Et puis, en plus, on s'oriente vers les familles. On a vraiment conçu le gîte comme étant dédié aux familles. Donc, il y a beaucoup de jeux, de livres, d'activités pour les enfants. Donc, je trouvais que ça collait bien au thème.
Génial. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager quelques chiffres par rapport au budget ? Alors, est-ce que tu sais à peu près le pourcentage de votre apport sur l'emprunt financier ?
Alors, de tête, je n'ai plus exactement les chiffres exacts, mais l'apport n'était pas énorme parce qu'on venait juste d'acheter notre propre maison. Donc, il n'y avait plus beaucoup de sous. On a dû apporter moins de 10%. Bon, mais même pas. Non, même pas, ouais. Moins de 10%. À peine.
Et est-ce que vous avez dépassé le budget par rapport à vos prévisions ou vous avez réussi à rester dans les clous ?
Eh bien, on est pile au budget.
Franchement,
il y a eu des postes sur lesquels on a un peu dépassé, notamment tout ce qui était aménagement extérieur. Ça, on l'avait mal anticipé. Il y a eu du terrassement pour faire une zone de parking. Les arbres aussi, ça coûte un peu plus cher que prévu. Mais après, comme on a fait des choses tout seul, qu'au départ, on voulait sous-traiter, enfin, on voulait faire par des artisans, du coup, on a gagné sur cet aspect-là aussi. Donc, au global, on est pile au budget.
Et sur l'enveloppe globale, combien représente en pourcentage à peu près la partie équipement ? Donc, tout ce qui a été achat de meubles, d'électroménager, literie, etc.
Alors, en pourcentage, je ne vais pas te faire le calcul tout de suite, mais par contre, j'ai le montant en tête. Tout compris, on en a eu pour 24 000 euros, sachant que la literie, c'était vraiment le poste le plus important. On a vraiment souhaité...
T'as choisi quel fournisseur ?
Alors, tout simplement, la Redoute intérieure, mais la gamme hôtellerie.
D'accord.
Voilà, ils ont une gamme dédiée pour l'hôtellerie. On voulait vraiment que ce soit une literie de vraiment de bonne qualité pour que nos vacanciers puissent passer des bonnes nuits en vacances. Voilà.
Pour le linge de maison aussi, tu as fait avec La Redoute ou tu as choisi une autre enseigne ?
Oui, tout à fait. C'est AMPM qui est la marque déco voilà, de La Redoute. Et en tant que professionnelle, ils font une petite remise supplémentaire.
Vous avez dû, tu nous as dit, refaire tout ce qui est assainissement, évacuation, etc. Quel mode de chauffage vous avez choisi ?
On a choisi une pompe à chaleur. Au départ, de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une cheminée, un vieux poêle à fioul, donc on partait de zéro. Et voilà, après, c'est pas, on n'est pas complètement à fond dans l'écologie, mais on a quand même voulu faire un maximum dans ce sens-là. Mm-hmm. On a fait le choix de la pompe à chaleur pour le chauffage.
En aérothermie ou en géothermie ?
En aérothermie.
Ouais. Ouais.
Et après, on a d'autres aspects comme ça où on a souhaité faire un maximum dans le sens de l'écologie. Donc, par exemple, la piscine, c'est une piscine au sel. On a tout rénové, les meubles de famille ou des meubles qui étaient sur place pour ne pas racheter des meubles tout neufs venus de l'autre bout du monde. Et puis, beaucoup de créations aussi, maison, comme je te disais, pour les luminaires. Voilà. Donc, on a vraiment essayé d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible.
Est-ce que vous avez posé des jours de congé justement pour pouvoir vous consacrer encore plus aux travaux, à l'aménagement, ou est-ce que c'était juste votre temps libre le soir et les week-ends ?
Eh bien tout ça, donc les soirs, on s'est fait des soirées plaintes mémorables, les week-ends, et on a aussi posé des vacances ouais, pour pouvoir faire les travaux, donc... C'est vrai que du coup, on n'a pas eu beaucoup de repos cette année, mais c'était pour la bonne cause.
À quel moment du chantier, tu t'es donné une deadline en te disant « Bon, allez, ça y est, là, j'ouvre les résas et il faut qu'à telle date, je puisse déjà accueillir mes premiers locataires ?»
Alors ça, c'est vraiment une bonne question, parce que c'est peut-être la seule chose sur laquelle je ne recommencerai pas. En fait, dès le mois de mars, j'ai eu des demandes, alors que je n'avais pas ouvert les réservations. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que le mas était encore dans un état... Enfin, vraiment, vraiment pas habitable. Et donc, j'en ai parlé aux artisans pour savoir ce qu'ils en pensaient, à quel moment ils pensaient qu'on pourrait ouvrir. Le maçon m'a dit, donne-moi jusqu'à fin avril, et fin avril, je pourrais te donner une date plus précise. Donc, fin avril, je reviens vers lui. Il me dit, écoute, si je n'ai pas fini fin juillet, c'est que je suis mauvais, il faut que je change de métier. Puis, bon, ok, on lui fait confiance, on y va. Donc, on met une ouverture au 31 juillet. Et là, du coup, a commencé vraiment le compte à rebours et ça a été la course, quoi. Ça a été vraiment la course. Ce serait à refaire, honnêtement, ce serait donner un petit peu plus de marge parce que les derniers jours ont été très, très, très sportifs.
Oui, j'imagine. Après, tout remettre en place, le ménage, mais énorme après un chantier. Oui, ça. Tu as réquisitionné encore la famille à ce moment-là pour aider.
Exactement. Oui, tout à fait. Donc, mes parents sont venus un mois et demi de mi-juin à fin juillet. Et puis, j'avais aussi une stagiaire, Ornella, que j'embrasse aussi, oui. Qui nous a beaucoup aidés. En fait, elle a commencé son stage plutôt sur l'aspect commercialisation. Et puis, elle s'est passionnée à nous regarder faire les travaux et rénover les meubles. Et du coup, elle a voulu s'y mettre aussi. Donc, elle nous a vraiment beaucoup aidés sur la fin des travaux aussi, faire de la peinture, du ponçage, rénovation de meubles. Ça a été vraiment un peu une aventure collective, on va dire.
Génial. Et pour que tu aies la capacité de prendre une stagiaire, c'est par rapport au statut que tu as choisi pour exploiter l'activité ?
En fait, il fallait juste par rapport à son école que j'ai un statut officiel. Donc, je m'étais déclarée à la chambre, au tribunal de commerce, pardon. Et j'avais un numéro de SIRET et ça leur suffisait. Et en fait, c'était
génial.
C'était la nounou des enfants. Elle cherchait un stage, elle était en licence de tourisme, donc ça tombait super bien. Et donc, je lui dis, bah voilà, banco, tu vas venir faire le stage avec nous.
Non, excellent, mais c'est une super idée parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais jamais pensé. Et effectivement, une fois qu'on est déclaré immatriculé, ben, on peut prendre des stagiaires et ça peut être un vrai plus pour nous aider dans toute la construction. Est-ce que tu as fait des demandes de subventions ? Justement, je pense au chauffage ou des choses comme ça par rapport à ce que vous avez... fait faire ou fait comme choix.
Donc pour ce qui est chauffage, en fait, je m'étais renseignée et jusqu'ici, les aides ne s'appliquaient pas aux résidences secondaires, ce qui est le cas du gîte. Mais a priori, il faut que je confirme ça, mais il semblerait que depuis juillet de cette année, on peut quand même avoir les aides de rénovation du chauffage pour résidences secondaires. Donc je vais m'en occuper, mais on n'a pas encore fait les démarches.
Super. Est-ce que tu as fait le choix de te former, de suivre un stage, déjà pour confirmer l'intérêt que tu avais pour cette activité ou pour te rassurer sur certaines, sur l'avenir, tout bêtement?
Oui, tout à fait. Alors en fait, j'avais commencé par m'inscrire à un blog qui s'appelle Eldorado Immobilier. J'avais suivi des formations en ligne sur ce blog. Et après, j'ai découvert Maison Saulier, que tu connais.
Oui.
Je l'avais découvert sur un petit encart sur un magazine. Et j'avais appelé Pierre pour avoir un peu plus de renseignements. Et voilà, il m'a vraiment donné envie. Donc, j'ai participé à la formation de Maison Saulier en janvier. Et je suis revenue regonflée à bloc et motivée plus que jamais. Parce que je partageais complètement la passion qu'ils avaient. Pour cette activité. Quoi.
Excellent. Est-ce qu'il y avait une partie qui te faisait le plus peur ou qui semblait pour toi plus insurmontable qu'une autre?
Ça va plus être tout ce qui est gestion comptabilité. C'est pas du tout mon truc. Benjamin, c'est un peu plus son métier. Et donc, du coup, il m'a rassurée. Donc, voilà, il m'aiderait pour la compta au début. Et puis là, on va faire appel à un expert comptable.
Ouais. D'accord. Tu as choisi quel statut juridique ?
Alors, pour l'instant, le statut le plus simple possible, on est en entreprise individuelle. Donc, le statut de base, voilà, c'est pas du tout, enfin, c'est même pas une entreprise en fait. Tout simplement parce qu'on est salariés tous les deux et que c'était pas forcément évident d'avoir une entreprise à part en plus d'être salarié. Et voilà, une fois que je vais avoir quitté mon entreprise, je vais m'occuper de rendre les choses un petit peu plus officielles pour pouvoir développer l'activité dans un second temps.
Est-ce que tu vas solliciter à Tout France ou Gîtes de France pour du classement ?
Oui, on vient juste de le faire.
Ah voilà,
j'ai eu la visite de Gîtes de France, donc c'est eux qui sont venus pour faire l'audit.
L'homologation.
L'homologation, ouais. Exactement. Et ça y est, j'ai mes 4 étoiles. Voilà, on est ravis.
Félicitations !
Merci.
Et tu vas aussi faire les épis ou tu fais juste le meublé de tourisme et du coup le classement en étoiles ?
Alors c'est une bonne question, on est en pleine réflexion pour le moment parce que c'est vrai qu'après la visite de Gîtes de France, je me suis interrogée sur le fait est-ce qu'on allait aller sur leur plateforme aussi ou pas. Pour l'instant, c'est vrai qu'on a tellement rempli le calendrier sans difficulté que je n'ai pas trop vu l'intérêt. Après, peut-être plutôt pour le hors-saison, je me dis que ça peut être quand même pas mal de viser une autre clientèle qui n'est pas forcément une clientèle de famille avec des enfants en vacances, parce que hors-saison, ce n'est pas forcément la période où ils bougent le plus. Donc voilà, on est en réflexion sur le sujet, mais on y viendra probablement.
Et sur quel circuit de vente tu fais le choix de te représenter ?
Alors, pour l'instant, on a fait au plus simple parce que, comme je disais, on travaille encore tous les deux et qu'on n'a pas encore eu beaucoup le temps de se pencher trop sur la question. Donc, on est sur Airbnb et Instagram. Mmh. Et j'étais assez surprise, en fait, parce que Instagram m'a apporté quasiment la moitié des réservations.
Waouh ! Ah oui ! Excellent.
Ouais, franchement, j'étais surprise. Alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un an, je ne connaissais pas Instagram. J'avais pas forcément une très bonne image d'ailleurs, pour être très honnête. Et c'est justement en discutant avec Pierre de Maison Saulier que je me suis dit, Instagram, incroyable. J'imaginais vraiment pas du tout que ça pouvait être un moyen de louer un gîte. Mm-hmm. Et en discutant autour de moi, elle m'a dit, mais oui, bien sûr, il faut que tu te lances. Je dis, mais pour l'instant, j'ai rien à montrer, j'ai qu'une urine à montrer. Exactement. Mais si, au contraire, il y en a qui se passionnent pour la rénovation, les travaux et tout. Donc, du coup, je me suis lancée, mais vraiment sans y croire, quoi. Donc, ça, c'est assez rigolo.
Et maintenant, tu prends du plaisir, justement, à communiquer sur le MAS ?
Oui, alors d'ailleurs, Benjamin se moque un peu de moi, il me dit qu'il y a une adolescente maintenant à la maison. Parce que j'y passe. Ah, clairement, je me suis pris au jeu. Et puis, c'est vrai que c'est une telle source d'inspiration. On rencontre des gens très sympas, plein de bienveillance. C'est très sympa voilà, d'échanger aussi avec d'autres propriétaires en activité aussi. Ça permet d'échanger sur l'activité, sur les trucs et astuces,
les éventuelles difficultés. Donc, c'est un bon réseau aussi entre propriétaires de gîtes ou chambres d'hôtes.
Est-ce que tu projettes de faire appel à un ou une blogueuse ou une influenceuse pour dynamiser la communication sur le MAS?
Oui, alors je suis en discussion, c'est prévu. Donc je ne sais pas si je peux les citer tout de suite parce que du coup, si c'est, ça ne se fait pas, ce serait un peu délicat. Mais oui, donc on est en discussion. On essayait juste de trouver la bonne date en fait. Mais c'est prévu, voilà.
D'accord. Et donc, est-ce que je peux être indiscrète? Est-ce que du coup, ça veut dire que tu offres un séjour pour que la personne puisse après communiquer sur son séjour, ce qu'elle en a pensé et sur les services que tu as mis à disposition? Ou est-ce que c'est un partenariat rémunéré?
Non, c'est ça. C'est on offre le week-end. Comme elle habite pas trop trop loin, voilà, elle pourra venir avec sa famille sur un week-end. Donc, on offre le week-end en échange de partage sur son compte.
Ok. Alors maintenant, pour se concentrer un peu plus sur ton quotidien, alors il va changer puisque là tu en as un alors que tu travailles et puis il y en aura un nouveau quand tu seras complètement à 100% pour l'activité. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous vous organisez actuellement?
Alors, donc, je veux le dire pour aujourd'hui puis après ce que j'imagine, mais bon, déjà dans un premier temps pour aujourd'hui. Ouais. En fait, il y a eu deux périodes, la période d'été et la période de rentrée qui du coup donne deux organisations complètement différentes puisque l'été on loue vraiment que à la semaine. Du samedi au samedi, donc voilà, pendant les vacances, on a profité un petit peu, on s'est reposé, parce qu'on était vraiment à genoux, physiquement, donc on s'est reposé, et puis le samedi, c'est la course, donc les ménages, les changements de draps, donc c'est très très sportif le samedi.
Vous le faisiez qu'à deux du coup ?
On le faisait qu'à deux, et comme on habite dans une région touristique, on a quand même souvent des amis qui viennent l'été, et je les ai un petit peu embauchés.
Mais il faut, c'est bien, c'est un bon deal.
Exactement. Donc ça, c'est pour cet été. Donc c'est vraiment très actif le samedi, et puis le reste de la semaine, je faisais les contrats, j'envoyais le livret d'accueil à ceux qui allaient arriver par la suite, mais c'était plus calme. Et là, depuis la rentrée, en fait, tous les week-ends ont été pris. Donc le week-end on a nos vacanciers qui sont là, la semaine je travaille, et donc là pour l'instant au début j'ai fait le ménage, les lits, le soir après dîner, donc ça faisait des journées bien bien chargées. C'est pour ça que j'ai rappelé Ornella à la rescousse qui vient m'aider du coup, pour le ménage. Et après une fois que j'aurai complètement achevé ma reconversion, j'aurai plus de temps en semaine pour le faire plus tranquillement.
Tu évalues à combien de temps le ménage?
C'est minimum 6 heures. Minimum.
Ouais. Enfin, encore, et tu fais les lits quand ils arrivent, les lits sont faits?
Oui, exactement. Les lits sont faits, les serviettes de toilette bien installées. Je propose également d'aller chercher les courses au drive. Et ça, c'est vrai que comme on est à 10 minutes de la gare TGV, on a quand même pas mal de monde qui vient en train, notamment de Paris. On est à 2h40 en train de Paris. Et donc, ça rend vraiment service aux gens qui arrivent le vendredi soir de ne pas aller courir, faire les courses, voir parfois les magasins sont fermés, en fait. Donc, voilà, on fait ça aussi. On va chercher les courses, on met tout dans les placards. Et c'est vrai que ça rend bien service, c'est bien apprécié.
Oui, je crois que c'est une super prestation à proposer, effectivement. Et Benjamin, il fait quoi alors? Il fait la piscine, il tond la pelouse ou
non, exactement, t'as tout trouvé. Il tond la pelouse, il fait l'entretien de la piscine. Après, on est en train d'aménager pour mettre un robot tondeuse. Donc ça, c'est notre petit luxe pour se dédouaner de la pelouse parce qu'en fait, avec notre partie et le gîte, on a quasiment un hectare. Et ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps pour la pelouse. Alors, on a un tracteur, hein, mais malgré tout, ça prend du temps. Donc, on va avoir le robot qui va nous épauler aussi dans la gestion du quotidien. Et puis, parfois, il m'a aidé aussi à faire les lits cet été. Mais bon, c'est pareil, il a un travail bien prenant. Donc, pas beaucoup de temps non plus à y consacrer. Donc, faut s'organiser, c'est beaucoup d'organisation.
Et les enfants, ils arrivent à se garder tout seuls ou il te faut en plus prévoir quelqu'un pour garder les enfants?
Alors, ça dépend de combien de temps je les laisse tout seuls, en fait. Donc là, pendant les travaux, Donc, tant qu'ils étaient à l'école, ma mère faisait les travaux avec nous, mais une fois qu'ils ont été en vacances, c'est ma mère qui les a gardés. Et après, sur du quotidien, on demande aux grandes sœurs de garder leurs petits frères. Elles râlent un peu, mais elles le font gentiment quand même. Voilà.
D'accord.
Le petit dernier a 3 ans, donc il ne se garde pas tout seul quand même.
Oui, ouais, c'est pour ça, il est petit, ouais.
Oui.
Et pour la gestion du linge, tu as fait quel choix ? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes ? Est-ce que tu le confies à un prestataire extérieur ?
Alors, on fait tout nous-mêmes. J'ai tout acheté en double. Voilà, pour surtout le samedi. Autant là, hors saison, j'ai toute la semaine pour le faire, donc ça va. Mais pour l'été, il fallait absolument tout avoir en double. Et puis, j'ai acheté une machine à laver semi-pro, qui est vraiment une grande capacité. Mais malgré tout, je fais bien 6 ou 7 machines faciles. Ouais, plutôt 7-8 en fait. Et voilà, pour l'instant j'arrive à gérer, j'ai un grand étendoir dans le jardin, donc ça sèche dehors et ça va, j'arrive à gérer pour l'instant.
Et tu repasses ou tu fais le choix de ne pas repasser ?
Alors j'ai volontairement acheté du linge en gaz de coton qui ne se repasse pas parce que je déteste le repassage.
Mais c'est super, en plus je trouve ça magnifique. Et puis alors j'ai jamais testé, mais alors ça a l'air d'un confort, ça semble hyper moelleux.
C'est ça, c'est moelleux et puis ça donne vraiment visuellement un aspect très confortable aussi, pas que au toucher mais aussi visuellement, ça fait doudou un peu.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu souhaites développer plus tard plus de prestations ou d'autres services ?
Oui, alors j'ai plein d'idées. Ma difficulté va être de prioriser en fait. Alors déjà, en dehors du drive qu'on va aller chercher toutes les semaines, on propose aussi des prestations avec des partenaires que j'ai trouvés dans la région. Donc on propose des cours de yoga, ça marche bien. Des cours de pilates, des ateliers de loisirs créatifs pour les enfants, des ateliers couronne de fleurs, babysitting. J'ai aussi un partenaire qui fait des visites touristiques sur mesure dans la région. J'ai quelqu'un aussi qui fait des dégustations œnologiques à domicile ou des visites de cave. Donc voilà, plein de possibilités d'activités. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà mis en place. Et après, j'aimerais développer aussi une activité un peu plus pour les professionnels. Parce qu'actuellement, mon bureau, c'est une grande salle qui fait quasiment 30 mètres carrés, qui est chez nous, et que j'aimerais aménager en salle de réunion pour des petits séminaires, pour les entreprises, des réunions d'équipe. Et en fait, moi-même, j'ai beaucoup organisé de réunions de travail, de réunions de vente dans ma carrière. Et au début, c'est vrai qu'on va au plus simple, on réserve une salle de réunion dans un hôtel. Et après des années et des années de réunions dans des salles où on ne voit pas la lumière du jour pendant 3 jours, je n'en pouvais plus. Et donc, j'ai commencé à chercher des lieux un peu plus intimistes, un peu plus comme à la maison, où finalement, ça crée une dynamique d'équipe qui n'est pas du tout la même. C'est plus convivial. Finalement, on est plus créatif dans ce type d'environnement que dans une salle de réunion aseptisée. Et donc, voilà, c'est ça que j'aimerais bien... développer par la suite, c'est une offre plutôt pour les professionnels.
Par rapport aux services que tu proposes comme le yoga ou les visites, comment ça se met en place ? Est-ce que les locataires réservent à travers toi ou est-ce que tu les mets juste en relation directe avec le prestataire ? Et financièrement, à qui ils payent ? Est-ce que c'est à toi ? Est-ce que tu demandes une commission ou quelque chose ?
Alors, ça dépend des fois pour la réservation. En général, je vais vérifier la disponibilité du prestataire d'abord. Et ensuite, je les mets en contact pour l'organisation. Parce que parfois, ils changent d'horaire ou la prof n'est plus disponible à la bonne horaire. Donc, je préfère les laisser s'organiser entre eux. C'est plus facile plutôt que de faire l'intermédiaire. Et après, pour le paiement, c'est en direct. Je ne prends pas de commission pour l'instant. Peut-être que ça viendra si je me rends compte que vraiment, j'apporte beaucoup d'activités à un prestataire plutôt qu'un autre. Voilà. Mais pour l'instant, je préfère nouer des liens aussi avec les partenaires avant de commencer à demander des sous. Voilà.
Oui, non, mais je comprends tout à fait. Quand tu regardes un petit peu en arrière, quelles sont les principales leçons que tu retiens de toute cette aventure ?
Alors, il y en a pas mal, on va dire. Je pense qu'il faut vraiment, surtout quand on a beaucoup de travaux à faire, il faut s'impliquer dans les travaux avec les artisans si on veut que les artisans restent motivés et soient vraiment focus sur son chantier. Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à prendre d'autres chantiers à côté et du coup faire déborder un petit peu le planning. Alors que si on est avec eux, qu'on est impliqué, qu'on est là, présent, qu'on leur fait pas perdre de temps. C'était surtout ça, en fait. Moi, je travaillais déjà à la maison, donc ils venaient me voir plusieurs fois par jour pour me dire « Marie, je la mets où, la prise le luminaire, là, tu voulais plutôt centrer à cet endroit-là ou à cet endroit-là. » Et donc, du coup, j'aurais vraiment pas fait perdre de temps. On était très, très réactifs. Ou quand il a fallu peindre certains murs avant de poser le carrelage, par exemple, voilà, on a toujours été réactifs. Donc, je pense que participer, être là avec les artisans, ça aide beaucoup. Voilà. Après, je dirais qu'il faut vraiment que ce soit un projet de famille. Ce que je disais tout à l'heure, ça prend tellement d'énergie et de discussions matin, midi et soir qu'il faut vraiment que ce soit un projet familial et que tout le monde soit en accord avec ça parce que je pense que sinon, ça peut être vite compliqué parce que c'est très, très prenant. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de discussions. Donc, voilà, c'était à peu près ce que je noterais dans les choses à retenir. Et puis après, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être pas trop se mettre dans le rouge d'un point de vue planning quand même. On s'est vraiment laissé zéro marge et c'était, c'était chaud.
Oui, oui, oui. Est-ce que c'est ça la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée ? C'était ce manque de marge de manœuvre ? Ouais.
Ouais, clairement. En plus, on s'est mis dans le rouge tout seul, hein, personne ne nous l'a imposé. Bon, voilà. Après, on s'est dit c'était dommage quand même de ne pas bénéficier d'un premier été. On s'est dit que c'était dommage de rater la saison, donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis la pression tout seul. Après, on est content, vraiment, on est du genre un peu hyperactif, on n'aime pas quand les choses traînent de trop, donc on était content aussi que ça se fasse vite et qu'on puisse se lancer dans le projet rapidement.
Super. Quel est ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, je pense que le plus beau souvenir, c'est les tout premiers vacanciers qui sont arrivés, les étoiles dans les yeux. Parce que j'avais fait exprès de ne mettre aucune photo d'intérieur sur Instagram pour justement leur faire la surprise. Donc, ils n'avaient pas vu, en fait. C'est ça qui était assez incroyable. Ils sont arrivés, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et ils étaient... Voilà, c'est l'effet waouh quand ils sont arrivés. Donc, ça, c'est vraiment une belle récompense de tout le travail accompli. Ils ont été super élogieux sur ce qu'on avait fait. Donc, ça, c'est une super récompense.
Ah oui, la plus belle.
Oui, exactement. De toute façon, les clients contents, ça fait un propriétaire content.
Exactement. Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet qui est en train ou qui réfléchit à se lancer ?
Alors déjà, je pense que ça dépend beaucoup si on achète le bien ou si c'est un bien qu'on hérite. Et je dirais, si on achète le bien, il faut vraiment bien border son projet, se faire accompagner si besoin pour le business plan. Quand on a des remboursements à faire auprès de la banque, on ne peut pas se rater. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien anticiper cet aspect financier. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est un projet de famille, donc il faut vraiment que tout le monde soit bien en accord avec l'idée, parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est un projet passion, donc forcément... Ça occupe beaucoup l'esprit. Et après, je dirais, quand on a de la rénovation à faire, c'est s'entourer de bons artisans. Alors, ça paraît un conseil un peu bateau et qui paraît évident, mais ça change tout, en fait, dans une rénovation lourde. Quand on a des gens sur lesquels on sait qu'on peut compter, qui travaillent bien, et puis qui travaillent bien aussi avec les autres, parce que c'est vrai que la coordination, nous, c'était notre première rénovation. On n'avait jamais fait, donc on a vraiment découvert sur le tas le métier de maître d'œuvre. Et quand on a une bonne équipe, ça, voilà, ça aide, quoi. C'était vraiment sympa. Donc, c'était un joli projet, une belle aventure aussi humaine par rapport à ça, c'est qu'on s'est super bien entendu avec les artisans. Donc, c'est sympa.
Du coup, ça donne envie de faire un nouveau chantier ou pas?
Ah, bah, c'est la grande question. Alors, mes parents sont complètement HS après un mois et demi de rénovation intensive. Donc, ils m'ont dit non, il n'y aura pas d'autres projets. Mais nous, on s'est pris au jeu, clairement. On aime autant l'activité de gîte que ce qui était en amont, les travaux, la déco. Et ça, ouais, clairement, je pense qu'il y en aura un autre. Mais bon, ça, on verra. Il faut que l'opportunité se présente.
Comment tu décris ta nouvelle activité? Donc maintenant, ça va carrément être un nouveau métier. Comment tu vas dire, quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Eh bien, j'en sais rien. C'est une grosse problématique, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as des idées, parce que... Toi, ah, bah, déjà en activité, est-ce que c'est hébergeur? Est-ce que c'est...
Il y a de tout. Tout le monde a sa formulation, ouais. Moi, je dis gérante de gîte de groupe, mais j'aime pas tellement le mot gérante, mais à mon sens, c'est quand même celui qui se rapproche le plus de ce qui ressemble à mon quotidien, j'ai l'impression. Parce qu'effectivement, ça touche à tout, autant de l'opérationnel que du stratégique. Donc, voilà. C'est...
Exactement, c'est une activité qui est hyper variée, en fait, ouais. En termes de...
De tâches,
de actions, ouais. Exactement. Du très pratique ménage, lavage de draps, aux aspects, comme tu dis, beaucoup plus stratégiques, de marketing.
Commerciaux.
Exactement, ouais, de communication. Donc, ça touche à plein de choses. Donc, je n'ai pas statué sur le sujet encore. Je suis ouverte aux idées.
Ça marche. Appel aux auditeurs, envoyez vos propositions à Marie.
Voilà, tout à fait.
J'ai vu que le site avait été construit avec Amenities, donc j'imagine que c'est ton channel manager. Est-ce que tu es contente de cette collaboration?
Oui, tout à fait. Alors, vraiment, là où ils sont super forts, c'est le service client. Et c'est vrai que quand on se lance pour la première fois... alors, on avait déjà eu un gîte il y a longtemps en région centre, mais de façon... très anecdotique, et alors je te parle d'un temps où Airbnb n'existait pas, donc ça date.
Ouh là là, voilà.
ça ne nous rajeunit pas. mais du coup, voilà, pour se professionnaliser un petit peu, je me suis renseignée, le terme de channel manager était nouveau pour moi, et c'est vrai que d'être accompagnée par des gens qui sont très à l'écoute et qui aident beaucoup dans la création du site internet, dans la mise en place du channel manager, c'était vraiment un plus. Et ils sont très très disponibles. Donc ça, c'était vraiment vraiment leur atout, je pense. C'est leur disponibilité et le temps qu'ils passent pour nous aider dans la mise en place. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis donc ils ont un service de site internet, franchement à un prix très raisonnable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Et ils créent toute la structure. Du site internet, on leur fournit le texte, les visuels et ils créent, on va dire, la carcasse du site internet. Et après, on a la main pour faire toutes les modifications qu'on veut. Donc, quand nous, on a créé le site internet, j'avais que des photos de travaux, donc c'est ce que je leur ai envoyé. Et depuis, j'ai fait faire des photos par une professionnelle, une photographe, et j'ai mis à jour moi-même les photos sur le site internet, j'ai pas eu besoin d'eux. Ça se fait assez facilement. Et, là, d'ailleurs, l'outil est assez... assez intuitif.
Ouais, d'accord.
Ouais, exactement.
Et est-ce que tu accepterais de nous dire combien ça te coûte je crois que c'est des mensualités, si je ne me trompe pas.
Oui, alors j'ai fait ça au printemps. Je me demande, 35 euros par mois, je crois, 40 euros peut-être.
C'est proportionnel à la capacité qu'on a d'accueil ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, c'est d'accord. Vraiment par bien. Et c'est dégressif si on a des biens supplémentaires.
D'accord.
Si on a plusieurs gîtes, c'est dégressif. Et après, j'ai payé le site internet par ailleurs.
D'accord.
Pour la mise en place.
Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu utilises pour l'activité? Alors, bon, bah là, c'est un channel manager, mais est-ce que, par exemple, des outils propres à Instagram, comme un programmateur de posts ou quelque chose qui te permet de faire des visuels ou n'importe quel autre outil qui...
Oui, alors je me suis mise à Canva sur les conseils de la designer qui nous a fait le logo. Ouais. Et la charte graphique, donc je découvre, je ne suis pas très douée, je pense, pour l'instant, mais je fais avec les modèles qu'elle m'a proposés, donc ça me rend bien service. Ça, c'est pour la création. Après, pour les posts, j'utilise mon téléphone classiquement le soir sur le moment. Et sinon, parfois, j'utilise aussi Studio Creator.
D'accord.
Parce que je suis quand même plus rapide sur mon ordinateur qu'à taper sur mon téléphone. Et ça permet de... Bon, je trouve que c'est un peu plus facile sur l'ordinateur. Et par contre, je ne programme pas. Je fais vraiment... en fonction de l'inspiration du jour.
Ouais.
Ah oui, oui. Ouais.
Tu t'imposes pas un poste par jour ou un poste tous les trois jours avec des thématiques, deux photos en noir et blanc puis une photo couleur, quoi. Est-ce que tu as des règles comme ça que tu t'imposes ou absolument pas? C'est au feeling et selon ce que tu as envie de dire.
Alors, la seule chose que j'essaye de faire, c'est de poster environ deux fois par semaine. C'est ma seule règle. Et le reste, c'est complètement au feeling. J'essaie juste d'alterner. Parce qu'on a, par exemple, on a une salle de bain noire. Alors, j'essaye de ne pas faire que du noir à un moment donné pour que visuellement ce soit joli. Donc, d'alterner des photos de jardin ou des photos d'intérieur, la piscine, la terrasse, voilà. Mais c'est vraiment au feeling. Il n'y a pas de règle.
Nous voilà déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Marie. Tu le sais, je termine avec toujours deux questions. Donc, la première, dans quel établissement tu aimerais aller te reposer le temps d'un week-end?
Alors, j'en ai plusieurs. Évidemment, il y a plein de gîtes ou chambres d'hôtes qui sont magnifiques maintenant en France. Mais il y a quelques-uns qui me font de l'œil. Le premier, c'est Into the Prairie, que tu as déjà interviewé. Je trouve sa déco à tomber. J'en suis absolument fan. Et puis j'aime bien la région, voilà, donc je pense que ce sera un prochain voyage. Et après, j'avais aussi repéré, et j'ai entendu que ton mari l'avait cité la dernière fois, c'est la bergerie Amareda en Corse.
Oui.
Alors je trouve leur piscine avec vue sur les montagnes somptueuse. Ça donne vraiment...
Mais leurs photos sont juste dingues. Ouais. Bon, écoute, on s'organise ces deux week-ends alors, je pense que c'est pas mal, on peut y aller ensemble.
Avec grand plaisir.
Bon, et ma toute dernière question, quel titre de musique reflète le mieux l'état d'esprit du mat des écoliers?
Alors, je dirais... Alors, j'allais citer deux titres. Le premier, ça va refléter un peu le parcours, mais c'est un peu ringard, donc c'est pas grave, je vais le citer quand même. C'est « Je viens du Sud » de Michel Sardou, mais ne retiens pas ça pour la musique de fin, s'il te plaît, parce que c'est... Voilà, ça... Ça reflète juste mon parcours d'avoir toujours voulu venir habiter dans le sud après avoir passé toutes mes vacances étant petite. Et maintenant, j'irai plutôt pour l'état d'esprit du moment, ce serait Happy de Pharrell Williams, parce que je suis vraiment tellement contente d'avoir fait ce projet qui mesure notre bonheur quotidien.
Waouh, génial! En tout cas, ça se ressent et c'est un vrai plaisir de t'écouter en parler parce que on imagine le sourire jusqu'aux oreilles et on sent que vraiment c'est une aventure effectivement familiale mais vers laquelle vous vous épanouissez, quoi.
Oui, complètement. Merci Laura.
Mais écoute, un grand merci. Comment les auditeurs peuvent-ils te contacter?
Eh bien, Instagram, @masse des écoliers. Et puis sur l'Instagram, il y a aussi un lien vers le site internet et l'adresse mail du gîte, tout simplement.
Excellent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de témoigner sur le podcast. Je suis ravie et je te dis à très bientôt. Il me tarde de te découvrir maintenant avec le nouveau rythme à plein temps.
Merci à toi, Laura. C'était un plaisir.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous sur Instagram pour retrouver les coulisses du podcast. Si l'épisode vous a plu, je serai très heureuse de vous voir en story en train de l'écouter ou de le conseiller autour de vous. On a tous un ami, une collègue ou un cousin qui s'interroge sur l'univers merveilleux des gîtes et chambres d'hôtes, non? Dans notre métier, les avis clients sont essentiels à notre développement et pour le podcast,
c'est pareil. Aussi, je vous serai très reconnaissante de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast pour faire connaître l'initiative au plus grand nombre. À très vite pour un nouvel épisode des Clés du Gîte.